Radio Okapi.
Le journal, c'est avec Gisèle Cage.
Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal d'information sur Radio Okapi. Voici les principaux titres qui font l'actualité ce soir. Ebola, un pas décisif vers la fin de l'épidémie à Boulapé. Le dernier patient a quitté le centre de traitement guéri, ouvrant une période de 42 jours d'observation avant la déclaration officielle de la fin de l'épidémie selon l'OMS. RDC Ouganda, un nouveau souffle pour le commerce transfrontalier. À l'issue du forum de Butembo, les deux pays s'engagent à lever les barrières non tarifaires, améliorer les infrastructures transfrontalières et faciliter les investissements conjoints avec la mise en œuvre de la dispense de visa pour les Ougandais. Audi Minier, la société civile hausse le ton. Invité du journal Durk Chaka, coordonnateur de la coalition Congo n'est pas à vendre, appelle à un audit des actifs de la Gécamines et plaide pour une gestion plus transparente des ressources minières. Ce journal s'ouvre sur une note d'espoir sur le plan sanitaire. À Boulapé, dans la province du Kasaï, la dernière personne hospitalisée pour la maladie à virus Ebola a été déclarée guérie et a quitté le centre de traitement. Une étape importante dans la lutte contre l'épidémie, mais la vigilance reste de mise. Cette sortie marque le début d'un compte à rebours de 42 jours, période d'observation au terme de laquelle l'épidémie pourra être officiellement déclarée terminée, à condition qu'aucun nouveau cas ne soit détecté, précise l'Organisation mondiale de la santé. Le point avec Lievin Mbwinga.
La République démocratique du Congo a franchi une étape majeure dans la lutte contre l'épidémie de maladie à virus Ebola avec la sortie du dernier patient depuis la déclaration de l'épidémie le 4 septembre dans la zone de santé de Boulapé, province du Kasaï. 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et 11 probables. À ce jour, 19 patients sont guéris et aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 25 septembre. L'épidémie s'est déclarée dans une zone rurale difficile d'accès, malgré les défis liés à l'éloignement, à l'état des routes et aux infrastructures limitées. Le ministère de la Santé, avec le soutien actif de l'Organisation mondiale de la santé et de ses partenaires, a rapidement intensifié les mesures de riposte. Pour faire face à la situation, l'OMS a déployé des équipes pluridisciplinaires chargées de renforcer la surveillance épidémiologique, les soins cliniques, la prévention et le contrôle des infections, la logistique ainsi que l'engagement communautaire. Un centre de traitement Ebola de 32 lits équipé d'un module de soins intensifs pour maladies infectieuses de 2 lits a été mis en place en un temps record, une première dans la région en dehors d'un exercice de simulation. Par ailleurs, plus de 35 000 personnes ont été vaccinées contre le virus à Boulapé.
Page économique à présent, la République démocratique du Congo et l'Ouganda réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération économique transfrontalière. À l'issue du forum de connexion commerciale RDC-Ouganda tenu du 17 au 18 octobre à Butembo dans le Nord Kivu, les deux pays ont mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les infrastructures transfrontalières, de renforcer la coordination douanière et de lever les barrières non tarifaires. Ils se sont également engagés à promouvoir des investissements conjoints, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la logistique et de l'industrie manufacturière. Plusieurs actions concrètes ont été convenues pour dynamiser les chaînes de la valeur régionale. Écoutez un extrait du communiqué final lu par Anselme Kitaka, un passage sélectionné par Martial Papimukeba.
Établir un groupe de travail conjoint sur la facilitation du commerce, organiser des réunions annuelles afin d'évaluer les progrès réalisés sur les engagements et l'identification des nouveaux domaines de coopération. Organiser le forum de connexion d'affaires Ouganda-RDC chaque année en alternance dans les principales villes économiques de deux pays. Demander aux gouverneurs des provinces transfrontalières de mettre en place ou formaliser des mécanismes de coopération transfrontalière entre provinces. Renforcer la collaboration bilatérale pour la sécurité des pêcheurs sur le lac Édouard, envisager la possibilité d'ouvrir une liaison aérienne entre les villes transfrontalières de nos deux pays. Collaborer pour lutter contre la criminalité transfrontalière, la fraude et la contrebande.
Parmi les engagements pris, la RDC a annoncé la mise en œuvre de la dispense de visa pour les ressortissants ougandais, une mesure déjà appliquée par Kampala depuis 2023, conformément à l'accord signé lors de la 8e session de la commission mixte RDC-Ouganda. Poursuivons ce journal avec une préoccupation majeure dans la province de la Mongala, les difficultés d'évacuation des produits agricoles vers le centre de consommation. On visite à Lissala, chef-lieu de la province. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a constaté de visu l'ampleur du problème. Au port de l'Onatra, il a découvert d'importants stocks de sacs de maïs et d'autres denrées de première nécessité, produits localement mais bloqués, faute de moyens logistiques pour les acheminer vers Kinshasa. Reportage signé Blaise Makassi.
À l'approche de la nouvelle saison, les agriculteurs ont plaidé pour une évacuation rapide de ces produits. Poncien Nzemo Timbuza, inspecteur provincial de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, rapporte que le ministre a proposé des solutions concrètes pour débloquer la situation.
Ce qu'on retient d'abord, hier on a été à Bomba, on a plaidé pour les riz et nous avons des réponses de positives par rapport à son engagement et la synergie qu'il a proposé à travailler avec l'agriculture et sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes à Lissala, on lui a fait voir les maniocs. Pour nous, nous avons tout espoir que voir une autorité comme ça dans les champs, ce n'est pas pour rien, il a une vision. Et c'est cette vision-là qui est pleine d'espoir et d'avenir pour l'économie, même agricole, de la province de la Mongala.
Le vice-premier ministre s'est également rendu aux installations de l'Office de voirie et drainage, OVD, pour s'enquérir des moyens disponibles afin de lutter contre les érosions, un problème majeur qui affecte la ville de Lissala. Il s'est par la suite entretenu avec les opérateurs économiques locaux, les représentants de la société civile, de la Fédération des entreprises du Congo, l'Association des femmes rurales et les notables de la ville.
Sud Kivu, vive inquiétude dans le territoire de Mwenga face à la flambée de prix de produits de première nécessité. Les forces vives de Mwenga, Kamituga et Shabunda dénoncent une hausse brutale de prix qu'elle attribue à la décision de responsable du M23 d'interdire la circulation des véhicules sur l'axe Bukavu-Mwenga au niveau des Bwaungu. Conséquence directe, le prix d'un sac de farine de maïs qui s'est vendu à 50 dollars a doublé dans certaines localités, atteignant désormais les 100 dollars américains. Voici les témoignages d'un acteur local recueilli par Ronelin Timbonera.
Nous appelons les autorités des deux côtés de faire diligence pour voir comment on va aider cette population victime, cette population civile qui est en train de souffrir à cause de cette route qui est la seule voie pour alimenter Kamituga, Mwenga, Shabunda, même une partie du Maniema. La route elle est bloquée au niveau de Bwaungu, inaccessible pour la population. C'est impossible d'y passer. On ne peut pas aller vers Mwenga, on ne peut pas aller vers Shabunda. Bien véhiculé, même les individus n'y passent pas. Les conséquences sont énormes. La situation elle est tellement compliquée, la situation humanitaire c'est tellement aggravé. Là, un sac de farine de maïs coûte aujourd'hui 250 000 francs, donc c'est plus de 100 dollars. Une population pauvre, déjà victime de la guerre, on ne sait pas comment les gens vont vivre à ces niveaux-là. Même pour prendre les médicaments, il faut prendre ça deux jours par semaine. Donc on ne respecte même pas les principes médicaux.
Sur le plan sécuritaire, le commandant du secteur opérationnel Sokola 2, Nord-Sud Kivu, dément la présence des éléments de l'AFC M23 dans la partie orientale du territoire de Shabunda. Lors d'une récente tournée d'inspection, il a affirmé avoir constaté que toutes les positions des FARDC sont solidement tenues et bien consolidées, rassurant ainsi la population sur la situation sécuritaire dans cette zone. Suivez ces précisions.
Dans la chefferie de Bakisi, une entité du territoire de Shabunda proche d'Enzibir occupée par l'AFC M23 dans les territoires voisins de Walungu, la situation est sous contrôle. propos du porte-parole du secteur opérationnel Soukola 2, Nord-Sud Kivu, le sous-lieutenant Meya.
Le commandant du secteur opérationnel Soukola 2, Nord-Sud Kivu a effectué une tournée d'inspection des unités déployées dans sa zone de responsabilité dans le territoire de Chabunda. Partout, il a exhorté les militaires à un sursaut de patriotisme, tenir leur position pour faire l'échec à l'agression. Cette série de visites l'a conduit en Nzovu, Edinge, Kiluma, Lutika, Ekeke, Kintepa et Evari.
La société civile de Chabunda confirme Maître Joseph Mpeseni, président honoraire.
La situation sécuritaire dans le groupement de Bamuguba Sud sur l'axe Kigulube-Chabunda est relativement calme. Ces AFC M23 n'ont jamais foulé un mètre du territoire de Chabunda. Nous sommes en train de décrier seulement des multiplicités de barrières.
Chabunda est le plus vaste de tous les 8 territoires de la province du Sud Kivu.
En lien avec les tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, le président angolais João Lourenço a, dans son discours sur l'état de la nation prononcé le 18 octobre, exhorté les acteurs politiques congolais à engager un dialogue inclusif pour restaurer la paix. Un message salué par Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, qui, dans un communiqué officiel, réaffirme son soutien au processus de Luanda et appelle à l'unité nationale autour des efforts diplomatiques et militaire. À Kinshasa, dans le quartier Ngombe-Lutendele, communément appelé Koweït, situé dans la commune de Mongafula, l'insécurité refait surface. Après quelques jours d'accalmie consécutifs à la visite du bourgmestre, les habitants font à nouveau face à des incursions nocturnes des bandits. Selon plusieurs témoignages, ces individus, parfois vêtus d'uniformes de la police et de l'armée, s'introduisent dans les habitations et commercent sément la peur. Résultat, de nombreuses familles ont fui le quartier, tandis que d'autres vivent dans une angoisse permanente dès la tombée de la nuit. Un reportage signé Abraham Kabuka, rendu par Babel Pongo.
Ces bandits ont opéré sans relâche pendant 3 jours successifs cette semaine, de lundi à mercredi. En une nuit, ils s'introduisent dans plusieurs maisons d'habitation. Les boutiques sont aussi ciblées. Pas la peine de leur ouvrir la porte. Murs, vitres, antivol métalliques, rien ne leur résiste. Ils sont équipés pour cela. Ces habitants n'en peuvent plus. Les policiers du quartier, sous-équipés en sous-effectifs, sont incapables de les sécuriser. Le passage du bourgmestre n'a permis qu'une brève accalmie d'une semaine. Chaque nuit, ils se cotisent pour ravitailler la police en café et en sucre. Là, ces habitants plaident pour que les patrons de la police de Kinshasa pensent à leur ramener la sécurité.
Ils se divisent en bandes de 15 à 20 personnes. Ils sont armés et cela nous empêche de sortir secourir les autres. Les seuls qui paient nous sécuriser, c'est l'État.
Nous n'avons aucun secours. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le patron de la police de la ville, le général Israël, venez aussi à Koweït. Nous plaidons pour un point chaud à l'école Mulenda où ils opèrent souvent. Comme c'est déjà le soir, nous n'allons pas dormir. Même si on ne dort pas, ils viennent à 35, 50. Comment se défendre?
C'est depuis plus d'un mois que ces habitants sont menacés et torturés. Leurs économies et des biens de valeur sont emportés par ces bandits.
Dans le village Tombo Ngindo à Kananga dans le Kasaï central, les élèves de l'école Kwatila Mwana Mpasu ont dû ranger leurs cahiers et rester à la maison en cause de l'effondrement de leur bâtiment scolaire consécutif à la forte pluie qui s'est abattue sur leur village. Kananga a également enregistré d'importants dégâts matériels face à cette situation dramatique. Élèves, enseignants et parents lancent un appel pressant aux autorités pour une solution urgente. Les précisions avec André Katende Ngalamboulume.
L'école Kwatila Mwana Mpasu se trouve à 20 km du centre-ville. Elle est l'unique dans le village. Elle compte une centaine d'élèves. Lors de la pluie qui s'est abattue sur la ville la semaine dernière, la toiture de cette école a été emportée et les murs se sont écroulés, rendant ainsi difficile son fonctionnement. Difficile aussi pour les élèves de rejoindre une autre école, car la plus proche est à 5 km de leur village. Mais sachant que faire, les enseignants et élèves se tournent les pouces. Face à cette situation, Maître Alexandre Tchama, conseillère municipale de Lukonga, s'est dit profondément touché.
Je lance un SOS d'abord aux autorités locales, mais aussi au gouvernement national. Il y a aussi des partenaires techniques et financiers qui puissent prêter main forte à cette école, parce que c'est une école qui forme les élites de demain.
Ces drames viennent s'ajouter aux difficultés quotidiennes de cette école, dont les infrastructures laissent à désirer, avec de vieux bâtiments dépourvus des bons pupitres. Kananga, André Katindengala Moulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après la fin des financements américains décidés sous la présidence de Donald Trump et le démantèlement de l'USAID, de nombreuses cliniques sud-africaines ont été contraintes de fermer ou de réduire leurs effectifs. Cette situation a gravement affecté la lutte contre le VIH-Sida dans le pays. Dans ces contextes difficiles, l'Afrique du Sud annonce avoir reçu une aide de 115 millions de dollars des États-Unis pour combler le déficit des financements liés au VIH sur une période de 6 mois. Ce soutien provient du programme PEPFAR qui représentait auparavant environ 17% de fonds sud-africains dédiés à cette lutte. La ministre à la présidence Kumbuzo Natshavheli s'est exprimée à ce sujet. La principale critique était que nous n'avions pas eu le temps pour nous y préparer. Avec ces 115 millions de dollars, les États-Unis nous disent voilà, jusqu'à cette date, vous avez cette enveloppe, mais après c'est terminé. Cela nous permet de planifier et de nous adapter. Cependant, l'outil routé, membre de l'organisation Riches, estime que cette aide reste insuffisante. En réalité, le financement américain a été réduit de moitié cette année. Sur le terrain, près de la moitié des établissements que nous avons surveillés ont réduit leur capacité d'accueil et 85% signalent des pénuries de personnel. Cela pousse les gens à renoncer aux soins.
L'invité.
Zoom à présent sur la gouvernance des ressources naturelles en RDC. La coalition Congo n'est pas à vendre, appelle le gouvernement congolais à lancer un audit sur la cession des actifs miniers, notamment ceux de la Gécamine, afin de permettre au pays de recouvrer ses droits. Cet appel a été lancé dans une note publiée ce week-end à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Dirk Chaka, coordonnateur de la coalition Congo n'est pas à vendre. Il répond aux questions de Blaise Shindani Kambala.
Docteur Dirk Chaka, bonjour.
Bonjour.
Congo n'est pas à vendre, à organiser une activité. De quoi s'agissait-il au juste?
Nous avons publié la note sur le cobalt, sur le cobalt à prix cassé et la corruption à plein tarif, qui est une note d'analyse que le CENPAV venait de publier il y a de cela un mois et demi au Katanga. Et cette publication s'est faite ici à Kinshasa. Et cette note, produite par CENPAV, fait au fait un panorama du bradage des actifs miniers de la Gécamine dans le projet Mutanda Mining et qui essaie de retracer le processus par lequel la Gécamine a cédé ses parts et les différents éléments en lien avec la corruption qui a amené à cette cession des parts de la Gécamine. Et parmi les acteurs qui ont été cités dans cette note, il y a le groupe Ventura qui appartient à l'homme d'affaires israélien Dan Gettler et qui a réagi donc à l'issue de la publication de la première note qui a été faite à Lubumbashi. Nous avons aussi tenu de revenir au fait sur la réaction du CENPAV au communiqué et à la note du groupe Ventura sur les transactions liées au projet minier Mutanda Mining. Et la note donc, s'intitulait « Royalties occultées, silence calculé de Ventura ». Comme cette note avait été transmise de manière confidentielle à certaines structures, bien qu'elle a été maintenant publiée, nous avons tenu à y reporter une réponse tout à fait exhaustive pour expliquer effectivement notre approche de travail, l'objectivité qui a mené à ces conclusions, mais aussi revenir sur les recommandations que nous avons faites par rapport à ce qui avait été mal fait dans le processus de cession de ces actifs de la Gécamine.
Qu'est-ce que vous reprochez à Dan Gettler, au fait, dans cette histoire?
Nous ne reprochons pas seulement à Dan Gettler, nous reprochons un certain nombre de faits qui procèdent de l'opacité qu'il y a eu dans le processus de cession de ses parts. Et pour ce que nous voulons aborder des questions de fond, nous avons donc abordé des questions liées à l'absence d'appel d'offres, à la non-publication des contrats, à la cession irrégulière des revenus stratégiques, comme les royalties de la Gécamine. Et nous avons essayé de revenir sur des chiffres importants qui étaient non seulement publiés dans les contrats, et qui parfois n'était pas correspondante à ce que les entreprises elles-mêmes avaient publié sur leurs différents versements qu'ils ont fait à la Gécamines, aussi bien que les différents manques à gagner que ces différentes transactions ont apporté vis-à-vis que la Gécamines a connu de suite de ces transactions. Nous rappelons que il ne s'agissait plus même de parler de la question de corruption, parce que la corruption dans ce processus a déjà été établie par la justice suisse qui avait condamné Glencore pour n'avoir pas usé de son droit de préemption dans ces transactions, et Glencore n'avait pas fait appel et a dû payer les différentes pénalités qui lui avaient été infligées. Et donc il s'agit plutôt de pouvoir faire un travail qui permet au gouvernement congolais de pouvoir réaffirmer d'une certaine manière le besoin d'audit sur la manière dont ces différents actes par de la Gécamines ont été cédés, de permettre au gouvernement de pouvoir analyser la pertinence de pouvoir prendre en compte ces contrats et dans quelle mesure le gouvernement congolais peut être remis dans ses droits, parce que le processus d'acquisition de ces parts avait été entaché de beaucoup d'irrégularités.
Comment expliquez-vous que Ventura est accusé, mais en même temps le gouvernement congolais est en train de faire les plaidoyers pour tenter de faire enlever les sanctions contre cette entreprise?
Oui, nous savons que le gouvernement avait fait un accord avec M. Dengetler autour de questions qui le concernaient, parce qu'il a été effectivement engagé dans plusieurs cas de bradage des ressources naturelles, la RDC, et le gouvernement avait essayé de faire un accord pour permettre que le groupe Ventura puisse redevenir un acteur fiable par rapport à son partenariat avec la RDC. Et dans cet engagement, la RDC avait pris l'engagement de pouvoir faire un plaidoyer pour la levée des sanctions contre Ventura. Et pour nous, nous ne pensons pas que ces sanctions méritent d'être levées, parce que beaucoup d'opacité continue à entourer l'implication de groupe Ventura dans les secteurs extérieurs.
Vous, en tant que société civile, comment trouvez-vous cette attitude du gouvernement congolais?
Nous pensons que le gouvernement devait saisir l'opportunité de ces sanctions pour diligenter un processus d'audit sur les affaires et l'implication de M. Dengetler dans les entreprises du secteur extractif congolais. Cet audit devrait mener à des processus judiciaires pouvant permettre à la RDC de pouvoir établir les responsabilités des acteurs impliqués, mais aussi les pertes que la RDC a connues dans ces différentes transactions, et en fin de compte permettre à la RDC de se rétablir dans ses droits et éviter que nous ne tombions dans le piège de pouvoir, par exemple, racheter des actifs qui pourtant étaient déjà acquises de manière frauduleuse et par la corruption. Et donc, ça serait un manque à gagner supplémentaire pour la République démocratique du Congo, sachant que la RDC a besoin des ressources importantes pour la construction du pays, pour faire face aux différents défis sociaux auxquels la population fait face.
Docteur Dirk Chaka, je vous dis merci beaucoup.
Merci beaucoup à Radio Capi.
C'était Dirk Chaka, coordonnateur de la coalition Congo n'est pas à vendre. Il réagissait à l'appel lancé par sa structure en faveur d'un audit sur la gestion des actifs miniers de la Gécamines, dont le but est de garantir une meilleure transparence et de permettre à la RDC de recouvrer ses droits. Il était donc au micro de Blaise Oshindani Kambala. Merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon de l'actualité. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage. La mise en onde du donné Nyangasa, coordination éditoriale Jean Gandou, supervision Lievino Mbwinga. Vous pouvez suivre ce journal en podcast sur notre site web www.radiocapi.net. Pour rester également informé en temps réel, n'hésitez pas de consulter nos différentes plateformes numériques. Je vous retrouve très bientôt sur la même fréquence.